C'est Ali Rebbi, c'est grand bien vous fasse. Bonjour Ali.
Bonjour Laetitia Gaillet. Est-ce que vous êtes adepte de la cuisine japonaise?
Je trouve ça super bon, ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 c'est... Je crois que gustativement, c'est un des trucs les plus merveilleux que j'ai... Voilà, je peux le dire.
On est ravis de l'apprendre.
C'est intéressant, hein.
À l'heure, à 11h.
Voilà. Au revoir, bonne journée.
Salut. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, coup de projecteur sur les bienfaits d'une cuisine issue de traditions millénaires, une cuisine fraîche en lien avec la nature et avec les saisons, la cuisine japonaise qui ne se résume pas aux sushis et autres sashimi, une gastronomie ouverte, riche de ses influences asiatiques. On s'intéressera à ses couleurs, à son goût de l'esthétique, à ses textures, à ses saveurs, en particulier l'umami qui complète la palette du sucré, du salé, de l'acide et de la mer. Nous verrons à quoi ressemble un repas japonais type, la place des produits de la mer, algues, poissons, crustacés. On évoquera également le succès en France des wagashi, ces pâtisseries traditionnelles. Et puis nous évoquerons bien sûr une cuisine parmi les plus saines au monde, en particulier le régime Okinawa, cet archipel où l'on retrouve nombre de centenaires. Racontez-nous votre goût pour les nouilles soba, les ramen, la fondue japonaise, le wasabi, les champignons shiitake, l'algue wakame ou encore le saké. 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebbi, Grand Bien vous fasse.
On mange très bien chez vous, est-ce qu'on mange bien au Japon? Est-ce que vous avez appris des recettes là-bas?
Je n'ai pas appris de recettes, mais il y a une chose qui est sûre. Au Japon, ils ont des produits de première qualité. Et je crois qu'avec des produits de première qualité, on peut faire de la bonne cuisine. Ils ont des poissons comme on peut guère trouver en France. Et ils ont surtout une chose qu'on a perdue, c'est le goût de la discipline et de l'ordre.
C'est-à-dire?
Eh bien, j'ai vu des cuisines comme l'Impérial ou l'Okura à Tokyo, où il y a 250 cuisiniers. Et dans les cuisines, on entendrait voler une mouche. Je crois que c'est un bel exemple pour la profession de cuisinier.
Le chef Paul Bocuse en 1972. Bonjour, Lorquier.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de cuisine franco-japonaise et vous avez publié un merveilleux livre chez Mango, le grand livre de la cuisine japonaise. Bonjour June Fujiwara.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de L'Opportun les secrets du savoir-vivre japonais. Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour Ali.
Habituée de cette émission, directrice de la rédaction de Elle à table, entre autres, avec une couverture consacrée aux saveurs asiatiques. Bonjour docteur Catherine Lacronière.
Bonjour Ali.
Médecin nutritionniste, vous avez notamment publié chez Albin Michel la cuisine anti-inflammatoire. Bonjour Patricia Loison.
Bonjour Ali.
Journaliste sur la chaîne France Info, canal 27 de la TNT. Je recommande fortement, fortement votre journal de 23h. Et vous avez vécu quelques années au Japon, 3 ans exactement. Vous racontez cette expérience dans votre récit « Ceinture de soie » publié chez Fayard. Alors, Lorquier, quel est le cliché qui vous agace? Mais qui vous agace grave quand on vous parle de la cuisine japonaise? Quand on parle de la cuisine japonaise.
Alors, je crois qu'il y en a deux de clichés. Alors, le premier, je pense qu'il est un peu partagé par tous, c'est quand on résume la cuisine japonaise au seul sushi ou au poisson cru, parce que c'est bien plus varié que ça, on va le voir, et c'est très riche. Et le deuxième cliché, je dirais, c'est compliqué. Et je pense qu'en fait, la cuisine quotidienne, la cuisine familiale, elle est simple. Il suffit d'avoir quelques bons ingrédients qu'on peut maintenant trouver un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est les deux clichés qu'il faut oublier finalement.
June Fujiwara.
Je partage l'avis de Laure sur le sushi, ça résume pas la cuisine. Et ce qui m'agace, c'est vraiment cette espèce de salade de choux qui accompagne les sushis dans certains restaurants. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je l'aime pas du tout et ça m'agace.
Daniel Jerkens.
Alors ce qui est fascinant, d'abord, les sushis, c'est évident que ça ne résume pas du tout le Japon et surtout ceux qu'on mange chez nous ne sont pas du tout faits par des Japonais et sont pas des sushis de très grande qualité généralement, même si le poisson est plus ou moins frais. La cuisine japonaise, ce qui est fascinant, c'est que c'est une cuisine aussi complexe finalement que la cuisine française, avec des degrés de complexité, des typologies de cuisine, des cuisines d'apparat, des cuisines locales. C'est une cuisine ultra saisonnière, peut-être encore plus saisonnière que la nôtre, traditionnellement. C'est une cuisine de cueillette aussi, où il y a une tradition de produits sauvages incroyables. C'est en fait un univers absolu culinaire.
Et vous, Patricia Loison, quelle idée aviez-vous de la cuisine japonaise autochtone quand vous vous êtes expatriée là-bas?
J'en connaissais pas grand-chose, à part les brochettes pas bonnes et l'espèce de coleslaw bizarre qu'on nous sert avec les sushis à Paris. J'ai découvert tout là-bas. J'ai eu un coup de cœur culinaire parce que je suis excessivement gourmande. Et c'est en croquant un petit gâteau, les petits triangles de farine de riz chaud fourré aux haricots rouges. Alors, j'ai cru que c'était du chocolat, donc j'ai cru atteindre un orgasme gustatif la première fois au Japon. C'était du haricot rouge, mais c'est quand même très bon. Et donc, ça m'a fait ma Madeleine de Proust japonaise. Je me suis dit, si je peux trouver de la gourmandise là-bas, j'y serais heureuse. Et j'y ai trouvé des gourmandises puissance 1000.
Docteur Lacronière.
Alors, ce qui est assez incroyable avec cette cuisine, c'est que finalement, elle était extraordinaire pour la santé. On le verra avec Okinawa. Mais c'est une cuisine anti-inflammatoire, finalement. C'est la reine des cuisines avec le régime méditerranéen. À l'autre bout de la terre, on mange pour mieux vivre.
Quelle est l'essence pour vous, la quintessence de la cuisine japonaise, si vous devriez la décrire à quelqu'un qui ne l'aurait jamais goûté, Lorquier ?
Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une cuisine de saison. Et c'est souvent poussé à l'extrême. Je pense par exemple aux champignons en automne ou aux pousses de bambou au printemps. Et c'est vrai que c'est des produits qu'on va mettre vraiment qui vont se suffire à eux-mêmes, hein, qu'on va très peu assaisonner et qu'on va goûter au meilleur de la saison. On appelle ça le shun. C'est vraiment au meilleur moment du fruit ou du légume ou du produit qu'on va le déguster. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la cuisine japonaise.
Et les saisons influencent profondément le choix des ingrédients, les méthodes de présentation et les modes de cuisson.
Oui, tout à fait. En fait, il y a tout ça qui rentre en compte. Et c'est vrai que quand on regarde finalement son menu japonais et qu'on a sur la table un repas, on sait exactement à quelle saison on est, jusque dans la présentation, dans le choix de la vaisselle. Quand on va dans des restaurants un petit peu gastronomiques, on va avoir peut-être une petite feuille d'érable qui va donner une touche automnale, ou une fleur de cerisier qui va venir décorer les aliments. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et on disait aussi dans la cuisson, l'hiver, on va se réchauffer avec des marmites, des choses qui ont mijoté plus longtemps. Donc c'est vrai que tout ça fait partie intégrante de la cuisine japonaise.
Jun Fujiwara, au Japon, on savoure donc chaque saison, on y savoure la beauté de l'éphémère. Le critique gastronomique François Simon affirme que la saison, je le cite, est la force inimitable du temps présent au Japon.
Oui, c'est beau.
C'est dans votre livre.
Oui, absolument. Pourquoi on est tellement obsédé par la saisonnalité? Si je résume en une phrase, c'est parce que comme les Japonais pensent que tout est éphémère, on n'est pas dans la quête de la gloire éternelle, hein. On est dans un monde de l'impermanence, et du coup il faut vivre intensément, ici et maintenant, et du coup l'éphémère, toute la beauté est dans l'éphémère, et il n'y a rien de mieux que la cuisine pour saisir tout ce qui est éphémère. La cuisine est tangible. Au Japon, on dit qu'il y a 24 saisons et pas 4. Donc, il y a une nouvelle saison tous les 15 jours. En poésie, il y a des mots pour qualifier chaque saison. Et c'est pour ça que, dans la cuisine, comme disait Laure, on va essayer de capter la beauté saisonnière. Et c'est pareil dans la pâtisserie japonaise.
D'ailleurs, Daniel Jarquet, vous avez apporté un livre.
Oui, j'ai apporté un livre.
Que j'ai commencé à lire, qui est formidable.
Qui est un petit bijou qui s'intitule « La péninsule aux 24 saisons » de Mayumi Inaba. Aux éditions Piquet, c'est un livre de poche et ça raconte l'histoire d'une femme qui va quitter Tokyo et qui va aller dans une petite, vraiment dans une province et qui va passer ses 24 saisons d'une année japonaise et qui raconte vraiment au quotidien tous les petits plaisirs du quotidien. Elle parle notamment de cuisine aussi et c'est le temps de se ressourcer littéralement. Il y a un concept que moi je trouve absolument fascinant dans la cuisine japonaise. Alors je vais le dire très très mal hein, parce que je ne parle pas japonais. C'est le concept de hashiri, sakari, nagori, qui sont les trois, les produits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a, chez nous, on va dire, il y a la saison de la fraise. Au Japon, on va dire, il y a la saison du début de la fraise, il y a la saison de la fraise à son apogée, et puis il y a la saison de la fraise qui descend. Et les trois ont un intérêt, en fait. Et donc, il y a une, pour moi, c'est la subtilité poussée à son extrême dans tous les sens, à 360 degrés.
Patricia Loison.
Non, quand vous parliez de fruits, j'en parle dans le livre aussi. Pardon, j'adore le Japon, mais ils sont parfois fou à la perfection. J'ai été
à Nagoya, vous rappelez, sur une célèbre radio ici, Nagoya, pour les JO, voilà. Et ils ont une... par exemple, ils tournent les pommes dans le sens du soleil pour les faire mûrir. Ils mettent au pied des pommiers un papier réflecteur. Ils lui mettent un petit papier si elle a une pommette trop rosie pour que le bronzage et la couleur de la pomme soient parfaits. Et quand vous allez au supermarché acheter des fruits, ils sont, c'est comme si vous allez à un défilé de haute couture. Ils sont dans des petites barquettes, ils sont juponnés avec un joli papier et vous pouvez payer mais des fruits jusqu'à 100 euros. Et vous pouvez envoyer une cagette de pommes emballée comme un porte-monnaie de chez Dior à un ami pour lui, pour le remercier, pour lui souhaiter la bonne année. C'est incroyable, moi j'ai vu ça nulle part ailleurs.
Et il y a cette importance de la subtilité. J'ai le souvenir d'un maraîcher japonais établi en France qui fait peu de fruits et légumes et qui les vend assez cher à des très grands chefs. Et il m'avait raconté qu'il avait arrêté de travailler avec un chef très réputé. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, mais parce qu'un jour je suis allée dans sa cuisine et j'ai vu la manière dont il a coupé des radis blancs que je lui avais apportés. Et il y avait une violence dans sa coupe. J'ai arrêté de le fournir. Et je me suis dit...
Jeune Fujiwara.
Oui, tout est dans la perfection aussi. Pour parler des fruits, ça va encore plus loin parce qu'on prépare aussi des fruits secs. Alors, je pense au kaki. On trouve de plus en plus en France. En automne, il y a des arbres de kaki qui poussent partout au Japon, c'est merveilleux. Mais certains kaki sont astringents. Mais au lieu de les jeter, on va les faire sécher pendant 4 à 5 semaines. C'est l'astuce des grand-mères japonaises. Hein. Et ça va faire ressortir tout le sucre de l'intérieur. C'est un procédé naturel. Et comme ça, pendant tout l'hiver... on va garder la saveur de l'automne aussi et on va le déguster petit à petit.
Lors qui est au Japon, le mot riz signifie également repas à grands traits, de façon un peu schématique. Comment est composé un repas type japonais?
Alors, la composition du repas japonais, ça va être effectivement le riz qui va être vraiment en élément central. Et après, on va rajouter dans la cuisine familiale, en tout cas, des petits accompagnements qu'on appelle okazu. Et il va y avoir souvent une soupe miso, des petits condiments qu'on appelle des tsukemono, qui sont souvent des légumes qui sont saumurés, qui vont accompagner le riz. Et il va y avoir des légumes sautés, mijotés, ou un petit morceau de tofu. Il va y avoir une protéine qui va être un poisson grillé ou un petit peu de viande, mais tout ça en petite quantité. Et il va toujours y avoir beaucoup de plats qui vont accompagner ce riz qui est central.
Patricia Loison.
Quand je vous écoute, là où j'habitais à Kobe, je pense à ces deux petites grand-mères qui tenaient un restaurant et qui faisaient des produits bio à leur manière, de leur potager. Et au Japon, on peut manger extrêmement bien pour peu cher. On a toujours ce cliché de c'est un pays qui coûte cher. Et en fait, vous pouvez vous régaler. Et ces deux petites grand-mères, tous les jours, elles cuisinaient quelque chose de différent. Et c'est exactement ce que vous décriviez. Je le vois quand j'entends vos mots. On avait ce plat principal dans notre petit plateau. On avait notre petit bol de riz à côté. On avait les petits légumes saumurés marinés. Et c'était délicieux et vous pouviez manger pour aller 1200 ou 1300 yens et
ça équivaut.
C'est 10 ou 12 euros pour un repas complet. Donc voilà.
Extrêmement équilibré.
Et c'est équilibré.
Catherine Lacronière.
Oui, vraiment, c'est la définition d'équilibre alimentaire, puisque on a, vous savez, cette assiette que j'aime, la Peace and Love, où on a premièrement voilà des glucides avec le riz qui fait la base, qui donne l'énergie, avec des protéines qui sont souvent des protéines végétales, mais il y a quand même un peu de protéines animales, hein, puisqu'il y a du poisson et de la volaille, et puis des légumes à profusion. Donc l'équilibre alimentaire en raccourci dans l'assiette japonaise.
Jun Fujiwara.
C'est vrai qu'on n'est pas dans le schéma entrée, plat, dessert, hein, que je trouve personnellement parfois rigide. Moi, je cuisine beaucoup à la maison aussi, mais encore aujourd'hui, quand je fais que un ou deux accompagnements, je me culpabilise un peu parce que depuis toute petite, ma mère ou ma grand-mère va faire un foisonnement de plats. Donc, c'est drôle, ça m'est resté. Et j'aimerais aussi parler de la convivialité. Oui. Comme on a beaucoup de plats et on a des petites assiettes devant soi, on est dans le partage tout le temps. Et du coup, on n'est pas chacun en train de finir son assiette. Je trouve qu'il y a plus de plaisir dans la convivialité, justement.
D'ailleurs, quand on va au restaurant, souvent, on partage les plats. C'est vrai que c'est en France, on commande un peu chacun pour soi. Alors qu'au Japon, on a tendance, dans beaucoup de restaurants, à juste goûter plein de choses et à partager.
Ça, j'aime bien. Dans quelques instants, on reviendra sur les saveurs et le goût de l'esthétique de la cuisine japonaise, mais également sur ses bienfaits santé. Ce sera juste après Koshiji Fubuki, j'espère que je prononce bien, les amoureux des bancs publics.
お金のいらない街角の赤いベンチで恋人たちは口づけする。誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。若い恋人たちはいつも囁くのさ。昨日のこと明日のこと、優しい目を見合わせながら語るベンチ、くすぐるようなタバコの煙。誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。二人の恋が燃え立つとき空は曇る、そこで二人は抱き合うのさ。恋人たちの夢を乗せて運ぶベンチ、覗き込むのはミモザの花。誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ。昔も今も恋はいつもベンチで打ち明けるものさ。
Et nous venons d'écouter Koshiji Fubuki qui interprétait les amoureux des bancs publics.
Restaurant japonais le Kobe.
Grand bien vous fasse.
Du sukiyaki au teppanyaki, en passant par le sashimi et le shabu shabu.
Ali Rebei.
Tout saute, tourbillonne, voltige sous vos yeux pour finir par atterrir miraculeusement dans votre assiette.
Sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse aux bienfaits de la cuisine japonaise. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
Alors le kaiseki, c'est vraiment la haute cuisine japonaise. C'est celle qui a un très très haut niveau. Donc les chefs qui pratiquent cette cuisine du kaiseki sont des chefs qui sont reconnus comme des dieux vivants de la cuisine japonaise. Alors tout a du sens. L'eau que vous utilisez, le bol, le vide du bol, la saisonnalité au jour le jour. C'est ça le kaiseki. Et c'est ce jeu de texture et de température dans la cuisine qui fait que vous allez avoir de l'émotion. Donc on n'est pas dans la quantité, on est dans cette capacité à ce qu'une cuisine soit émotionnelle. Et comme la cuisine de fait est éphémère, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est ça la cuisine du kaiseki. Donc c'est des jeux de couleurs, des jeux de textures, et puis une succession de 9 ou 13 plats dans lesquels il y a 2 ou 3 gestes grand maximum, et le goût est à son summum. Coupe juste, goût juste. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, de la cuisson, de la température, des gradients de température et le bon timing. Et ça, c'est toute la subtilité de la cuisine du kaiseki.
Le chef Thierry Marx sur France Inter en 2016. Lorquier, je rappelle que vous êtes professeur des cuisines franco-japonaises. Cette cuisine du kaiseki, elle peut t'impressionner. On peut ne pas oser se lancer dans la cuisine japonaise après avoir écouté ces beaux propos, hein, de Thierry Marx.
Alors, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais je dirais que la cuisine kaiseki, justement, c'est un petit peu l'histoire des chefs. Et c'est une cuisine qu'on va déguster dans un grand restaurant ou dans des auberges traditionnelles. Ce qu'on va faire à la maison chez soi, et moi ce que je fais au quotidien, c'est bien plus simple. Et finalement, il faut un bon couteau. Ça, c'est vraiment la base. Par contre, pour se lancer dans la cuisine japonaise, moi, je conseille toujours d'acheter un bon couteau.
Qui va durer après, des décennies.
Qui va durer des décennies.
Que l'on va transmettre.
Et tout à fait. Et en fait, ça, c'est important parce qu'on va tout déguster avec les baguettes. Donc, il faut que tout soit prédécoupé. Et finalement, c'est vraiment le point essentiel pour se lancer.
June Fujiwara.
Je voulais revenir à ce que disait Thierry Marx. Je pense que dans la cuisine japonaise, il y a vraiment cette propension à aller vers l'essentiel, faire ressortir la saveur originelle des produits, que ce soit dans la haute cuisine ou dans la cuisine familiale. Et si je résume le savoir-vivre japonais en un mot, c'est vraiment ça, c'est aller vers l'essence de soi-même, l'essence des rapports avec le monde ou le rapport avec la nature. Et ça, on le trouve vraiment dans la cuisine.
Patricia Loison.
Quand j'écoutais Thierry Marx, alors je conseille à tous ceux qui auront la chance d'aller au Japon, d'aller à Koyasan, qui est une montagne sacrée pour les bouddhistes à côté d'Osaka. C'est assez facile d'accès, ça se visite facilement. Et vous dormez chez les moines. Donc oui, vous avez froid, parce que les températures peuvent tomber très vite en hiver au Japon, mais vous vous réchauffez avec cette cuisine qui est presque aussi belle que la cuisine des chefs. Moi, j'ai été éblouie par la beauté de ce que cuisinent les religieux là-bas. Vous avez des légumes on parlait de couteaux, qui sont sculptés. C'est d'une beauté. Enfin, je veux dire, je sais pas, moi, je suis pas une spécialiste de la cuisine. Juste, je suis une super gourmande et une gourmette. Mais quand la beauté et le goût, et que ce que vous voyez avec vos yeux se traduit en tout autant de nuances, de saveurs, c'est absolument magique. Et c'est aussi une cuisine, je trouve, qui est souvent humble, qui en jette pas, quoi. C'est juste dans la simplicité, mais quand vous regardez une tranche de concombre ou de radis blanc qui sont mais coupés à la perfection, enfin vous mettriez, je sais pas, faudrait 10 heures de cours avec vous pour arriver à faire le début. C'est très émouvant et c'est vraiment étonnant.
Daniel Jerkens.
Je crois que c'est ce qu'on appelle la cuisine shojin.
Oui, c'est ça, c'est la shojin yoli.
Et ce qui est fascinant au Japon, c'est que pour être considéré comme un bon cuisinier japonais, comme un bon maître sushi, c'est un apprentissage qui dure des années, voire des dizaines d'années. Et c'est pour ça que les Japonais font les meilleurs seconds, c'est ce que disent les grands chefs gastronomiques, c'est parce qu'il y a une attention à la maîtrise parfaite du geste qui permet de susciter l'émotion absolue.
Alors, Lorquier, vous le rappelez dans votre livre, Le Grand Livre de la Cuisine Japonaise, une idée reçue veut que la cuisine nippone soit autarcique, repliée sur elle-même, alors qu'elle est riche, par exemple, d'influences asiatiques.
Oui, tout à fait, principalement de la Chine, avec beaucoup d'ingrédients et de communs, et des plats aussi, par exemple les ramen, qui sont ces nouilles qu'on déguste la plupart du temps en soupe, qui viennent de Chine, ou les gyoza, qui sont les petits raviolis qui sont frits d'un côté et cuits à la vapeur de l'autre, qui sont des purs délices.
La sauce soja.
Et la sauce soja, bien sûr, le tofu. Enfin, il y a énormément de ponts entre ces deux cultures culinaires.
Et de façon inattendue, par exemple, le Japon doit ses tempura au Portugal.
Tout à fait. Alors oui, il y a eu une ouverture à un moment donné, parce que c'est vrai que le Japon a été fermé pendant très longtemps, mais il y a eu un comptoir portugais dans le sud du Japon, et grâce à ça, on a les fameuses tempura.
Daniel Jerkens, hors antenne, vous teniez absolument à parler des tempura, justement.
Oui, alors les tempura, si ceux qui en mangent...
Qu'est-ce que c'est exactement pour quelqu'un qui ne connaît
pas ? Ce sont des beignets, c'est une technique de beignet qu'on peut faire avec... alors, on fait beaucoup avec des légumes, d'ailleurs, des tranches de légumes, par exemple, pour avoir des tranches de potiron, des morceaux de courgettes, tous les légumes peuvent passer en tempura, ainsi que notamment du poisson et des crevettes. Et en fait, c'est une pâte à beignet qui a comme particularité d'être très légère, c'est-à-dire qu'elle est presque comme une pâte à crêpes, et cette pâte se maintient normalement sur un lit de glace. Donc en fait, il y a un contraste de température entre la pâte du beignet, donc on trempe le produit qu'on veut frire dans cette pâte à beignets et on la met dans l'huile chaude. Et donc, il y a un contraste de température entre cette pâte très fine, très froide et l'huile, ce qui va donner en fait une cuisson, une pâte très fine, très légère, aérienne et en même temps, isoler très vite le produit qui est à l'intérieur, qui du coup ne va pas devenir une éponge à graisse. On voit Dieu. Ben voilà, manger des tempuras, c'est voir Dieu.
L'ortier, la pâte à tempura, c'est facile à faire ?
C'est très facile à faire. Il suffit d'avoir de la farine, de l'eau, donc glacée, on a dit, ça c'est vraiment très important. Il y en a qui rajoutent un petit peu d'œuf.
Il faut que c'est la texture d'une pâte à crêpes.
Voilà, il faut que ce soit assez liquide quand même.
D'accord.
Et effectivement, il faut vraiment l'utiliser tout de suite. Et je rajouterai une chose dans la tempura qui est vraiment pour moi essentielle, c'est l'utilisation du daikon, qui
c'est
est un. Alors le daikon, c'est un radis blanc japonais. Donc on en trouve maintenant chez nous, c'est des radis longs qui peuvent être très gros. Et en fait, on va le râper. Et ça, on va l'utiliser dans la sauce. Et c'est un ingrédient qui est un peu réputé comme brûle-graisse. Et c'est vrai que vous mangez une tempura avec ou sans daikon et vous voyez toute la différence. La digestion est bien plus agréable avec le daikon.
Docteur Lacrevière, on n'a pas encore d'études sur cet aspect brûle-graisse.
Je pense qu'on n'a pas encore d'études là-dessus, mais c'est vrai que le daikon permet de donner du corps à l'aliment dans une soupe, par exemple. Et du coup, si on est plus rassasié, on va moins manger.
June Fujiwara.
Et ce qui me surprend agréablement, c'est qu'on trouve de plus en plus ces radis blancs daikon au marché en France, comme les champignons shiitake. Ou des enoki, on trouve des champignons japonais, des légumes, et je crois même qu'il y a des producteurs français qui font du wakame en Bretagne, du miso en Bourgogne. C'est assez surprenant.
J'ai faim, moi. C'est terrible. Vous parliez des influences, alors moi je suis née... Je suis née en Inde et mon pays c'est la France, mais ça m'intriguait quand même parce que vous pouvez manger du curry au Japon. Il y a des restaurants, il y a presque plus parce qu'on dit les sushis, non, il y a beaucoup plus de restaurants de curry que de restaurants de sushis, en tout cas là où j'habitais. Et alors j'ai eu du mal à le prononcer à la japonaise, mais vous pouvez aussi trouver, parce qu'on dit que c'est diététique, certes c'est diététique, mais il y a aussi des choses qui sont pas que diététiques. Si vous mangez des petits pains fourrés au curry, ça s'appelle karipan.
Karipan.
J'avais du mal à le prononcer, mais c'est une espèce de baguette fourrée avec du curry,
Et
parfois de la viande au curry.
Et souvent frit, même.
Et souvent frit. Et donc, on peut aussi prendre du poids et se régaler au Japon avec la cuisine indienne.
Sandy nous écrit ceci. Je me souviens d'un petit déjeuner traditionnel dans un ryokan, une auberge traditionnelle, avec une succession de saveurs salées et fumées que nous avions eu du mal à apprécier de bon matin, alors qu'il s'agissait de mets gastronomiques. Le petit déjeuner au Japon est plutôt salé.
Il est plutôt
salé.
Même
s'il y a une influence occidentale qui fait que de plus en plus de Japonais petit déjeuner à l'occidental.
Oui, c'est vrai que ça se perd un petit peu, le côté salé du petit déjeuner. Mais en fait, je dirais qu'en France, on est un des seuls pays, presque, un des rares pays, en tout cas, à petit déjeuner sucré. Et le salé, dans bien des traditions, est très présent dès le petit déjeuner. Et effectivement, au Japon, on a toujours ce bol de riz avec des petits condiments, la soupe miso. Et souvent aussi du poisson grillé.
Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur certains aspects de la cuisine japonaise, très attentive à plusieurs facteurs, les textures, les saveurs, l'esthétique. Les textures d'abord, le croquant, le croustillant, le fondant, le gluant, qui peut parfois même se retrouver dans un même plat.
Oui, tout à fait. Bah, par exemple, c'est vrai que le gluant... fait partie intégrante des textures qu'on retrouve au Japon avec le natto, par exemple.
Oula, on va parler du natto.
Voilà, le natto. Alors bon, je conseille quand même à ceux qui se lancent dans la découverte de la cuisine japonaise de pas commencer quand même par le natto.
Non, je vais vous faire une petite confidence. Notre ami Thierry Lhermitte, qui est chroniqueur dans cette émission, m'a incité un jour à manger du natto et je ne l'en remercie pas. Parce qu'il y a quand même une odeur de fromage très fort.
C'est très fermenté.
Voilà. J'adore les fromages, paradoxalement, mais le natto, Thierry Lhermitte, je ne te remercie pas.
J'espère que vous avez goûté autre chose depuis en cuisine japonaise.
Oui, je vous rassure.
Parce que le natto, effectivement, c'est des fèves de soja qui sont fermentées. Et donc, quand on les remue comme ça, on les mélange à la baguette, ça va faire des petits filaments
c'est
et
ça
donner une
très glu.
Bon, voilà. Je vous les laisse, Lortier. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur une saveur, l'umami. En plus du sucré, du salé, de l'amer, de l'acide, on retrouve dans la cuisine japonaise l'umami. Pouvez-vous expliquer ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas cette saveur?
Alors en fait, c'est ce qu'on appelle la cinquième saveur, et c'est une saveur qui va souvent donner de la profondeur au plat, et on le retrouve dans la cuisine japonaise beaucoup avec le kombu par exemple, qui est une algue, algue séchée qui sert à faire les bouillons dashi. Mais dans notre cuisine à nous, on peut aussi le retrouver dans le parmesan par exemple, dans les tomates séchées, dans les champignons,
sauce tomate.
Voilà, donc en fait, c'est des choses qui sont concentrées en goût et qui vont vraiment donner cette profondeur qui est importante.
Alors, moi, quand j'ai creusé ça, je parle sous l'autorité de Catherine Lacronière. C'est en fait le glutamate et les nucléotides qui donnent ce goût. Et le meilleur moyen de le décrire, c'est une espèce de goût enveloppant qui recouvre complètement la bouche et qui effectivement donne cette espèce de densité. Donc ça se trouve notamment dans tout ce qui est la viande, les bouillons, les poissons fumés, champignons, on l'a dit, parmesan, le thé vert, la sauce soja. C'est vrai qu'il y a énormément de choses dans la cuisine japonaise et c'est sans doute ce qui la rend aussi agréable et voire addictive, dans le bon sens du terme.
June Fujiwara, je rappelle que vous avez publié « Les secrets du savoir-vivre en japonais ».
Oui, je pense que aussi que les Français sont parmi ceux qui apprécient tout particulièrement la cuisine japonaise. Et je pense qu'il y a une raison, même s'il y a une différence de technique, d'ingrédients, la cuisine française, il faut le dire, c'est quand même une des meilleures au monde. Il y a ce raffinement, cette sensibilité. Je pense que les Français ont ce goût extrêmement développé, capable d'apprécier la différence, justement, dans la cuisine japonaise.
Alors, Lortier, la place des condiments est très importante dans la cuisine japonaise. Nous pourrions consacrer 10 émissions à ce sujet. Tiens, un condiment facile à réaliser et utilisable dans de nombreux plats. Vous avez une idée, là, en tête? J'en ai puisé, peut-être...
Oui, par exemple, le gomasio. Ça, c'est vraiment un condiment basique de la cuisine japonaise et qui est vraiment très simple à réaliser. En fait, il y a...
qui est déjà un peu salé.
Voilà, donc en fait c'est du sésame et du sel.
Ah voilà, c'est ça.
Goma en japonais ça veut dire sésame. D'accord. Et shio c'est le sel. Donc c'est un mélange de graines de sésame et de sel. Il y a 90% de graines de sésame, 10% de sel, donc c'est facile à retenir. Et en fait on va broyer en quelque sorte les graines de sésame, donc soit au mortier. En fait il y a un mortier japonais qui s'appelle le suribashi qui est très pratique parce que ça permet d'écraser les grains. Mais on peut le faire, dans un mortier, et ça, après, on le saupoudre sur le riz blanc, dans les salades, dans les soupes, et c'est très bon.
Docteur Lacronière.
Et oui, le gomasio, ça permet d'éviter de mettre du sel. Alors, puisqu'il y a ce goût salé qui va suffire, et on a donc ce sésame. Donc, pour tous les gens qui ont des problèmes cardiaques ou tout simplement des jambes lourdes, de la rétention d'eau, on va utiliser le gomasio pour limiter l'apport en sel, qui ne fait pas du bien à la santé.
Patricia Loison.
Non, mais moi, ça m'a changé quand même quelques-unes de mes habitudes. Alors, j'ai ramené du gomasio du Japon, ça évite effectivement de saler. Mais pour aller aussi dans le sens du travail de Daniel sur le sucre, moi qui suis une accro au sucre absolu, le fait d'être passé 3 ans là-bas, le sucre est très peu disponible, il y en a quasiment pas, donc vous n'avez pas de dessert. Pour trouver du chocolat, c'est un peu une espèce d'opération spéciale du FBI. Et du coup, je trouve que toute la richesse de saveurs qu'on vient de décrire et que décrivent nos invités et consoeurs japonaises permettent de compenser en quelque sorte ce sucré sur lequel on se rabat par facilité parfois, je trouve.
Daniel Jerkens.
Il y a ce registre extrêmement large, et c'est vrai que la rareté du sucré dans la cuisine japonaise qu'on trouve à travers, traditionnellement en tout cas, à travers ces purées de haricots rouges, mais qui n'est pas très présente, même si je crois savoir que le sucre de canne est cultivé depuis très longtemps au Japon, puisque ça vient du Pacifique. Mais néanmoins, c'était un produit assez rare. Et donc, la variété des autres saveurs permet de trouver des sources de plaisir. Exactement. Qui chez nous sont souvent résumés au sucre.
June Fujiwara.
On parlait de gomasio, je pensais en matcha. justement dans la pâtisserie japonaise. Je suis une fan inconditionnelle
Rappelez
de matcha.
Rappelez ce qu'est le matcha pour ceux qui ne
c'est
connaissent pas.
C'est la poudre fine de thé vert. Je vous en ai amené d'ailleurs. C'est un vert éclatant. Pour moi, c'est la couleur de la nature. C'est amer. Du coup, on va l'associer souvent à la pâtisserie, avec un peu de sucre, mais vraiment très peu. Et ça va vous apporter la saveur de la nature. Vous pouvez le mettre dans vos pâtes à crêpes, madeleines, des biscuits, ou même juste saupoudrer un riz au lait, un yaourt. C'est très facile à utiliser et c'est très très bon.
Docteur Lacronière.
Et là, c'est vraiment, on profite de tous les bénéfices nutritionnels du thé, parce qu'on n'infuse pas le thé, on va broyer la feuille pour obtenir cette poudre très fine, extrêmement riche en antioxydants, donc qui lutte contre les radicaux libres et le vieillissement accéléré des cellules, plus la présence d'un acide aminé, la L-théaline, qui permet d'améliorer quand même la mémoire et la concentration.
Il faut tout de même faire attention au dosage avec ce thé matcha.
Oui, parce que c'est amer, voilà. Donc le dosage
et si vous en consommez beaucoup le soir, il se peut que vous ne dormiez pas, c'est possible.
Alors j'ai repéré dans votre livre, Lorquier, une sauce toute simple pour une marinade de poisson, de volaille ou de légumes, la sauce teriyaki. Alors la sauce teriyaki, on a besoin de sauce soja, c'est ça?
Oui, alors en fait c'est à base de sauce soja, de myline.
C'est un alcool de riz très doux.
Voilà, c'est ça.
C'est un saké alcool... doux.
C'est un saké doux, mais qui va être vraiment utilisé uniquement en cuisine.
Ouais. Et il y a du sucre aussi.
Et il y a du sucre, oui.
C'est vrai bon qu'on, parce qu'il y a du sucre.
On disait qu'il y avait une absence de sucre dans la cuisine. Enfin, il n'y avait pas de dessert à la fin du repas, mais par contre c'est vrai qu'on ajoute un petit peu de sucre dans.
Et ça, c'est une très bonne marinade pour les poissons, les volailles, les légumes.
Voilà. Et donc, la sauce teriyaki, c'est, par exemple, pour le poisson ou le poulet, c'est vraiment une très bonne sauce, mais ça peut aussi accompagner des légumes.
Alors, est-ce que vous avez une bonne recette de soupe miso? Parce que j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps dans un magasin bio. une sauce miso toute prête, qui n'était pas vraiment exceptionnelle.
Alors, il faut la faire vous-même.
Oui, justement. Mais je vais la faire vous-même. Mais donnez-nous une recette, parce que je l'ai repérée dans votre livre. Voilà. Elle est toute simple à faire. Alors, la soupe miso.
La soupe miso, c'est vraiment l'incontournable d'un repas japonais. Et il y a autant de recettes de soupe miso qu'il y a de cuisinières ou de cuisiniers. Et donc, en fait, la base, c'est qu'il faut un bouillon dashi. Donc, le bouillon, en fait, c'est vraiment... On va le retrouver dans énormément de sauces, énormément de plats.
Alors c'est quoi ce bouillon dashi?
Donc ce bouillon dashi, en fait, c'est fait à base de kombu. Mm-hmm. Donc c'est une algue. Je vous en ai apporté là. Mm-hmm. On en trouve aussi dans tous les magasins bio parce qu'on en cultive en Bretagne. Mm-hmm. Donc c'est très facile à trouver et on l'associe au katsuobushi qui est de la bonite séchée. Alors ça, c'est un petit peu moins facile à trouver. Là, je vous en ai apporté une version qui est très très fine, mais on en trouve de plus en plus dans les épiceries asiatiques. On peut aussi très bien prendre de la poudre de dashi toute faite, hein, comme nous on prend nos cubes de bouillon.
Et donc cette soupe miso pour la réussir.
Donc du coup, il y a cette base là, et après on va faire cuire les légumes qu'on veut. Donc on peut mettre éventuellement des poireaux, des carottes, et à la fin on va rajouter la pâte miso. Qui est une pâte fermentée à base de fèves de soja et d'une céréale qui sera le riz ou l'orge. Et cette pâte miso, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut l'incorporer à la soupe à la toute fin de cuisson. Parce que si on la fait bouillir, on va perdre en fait des nutriments.
Docteur Lacronière.
Alors extraordinaire hein, pour l'intestin, la pâte miso, puisqu'elle est fermentée, qu'elle contient des probiotiques. Et pour tous les gens qui ont une colopathie fonctionnelle, manger une miso dès le matin, ça c'est quand même l'assurance d'avoir un ventre plus plat dans la journée.
Jeune Fujiwara.
La soupe miso, c'est vraiment un des premiers plats qu'on apprend à cuisiner en famille. J'ai des souvenirs merveilleux quand ma mère me laissait ajouter la pâte miso à la fin justement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, finalement. Je me prenais la liberté de mettre des crevettes, des viandes, des champignons, des légumes. Donc, c'est amusant à faire aussi.
Le miso s'achète dans les épiceries asiatiques. Et le mieux, c'est de l'acheter en paquet et vous le conservez au frigo. Et ça se conserve extrêmement longtemps. Et donc, vous pouvez prendre une petite cuillère de temps en temps.
Jeanne nous demande s'il est facile de trouver des produits typiquement japonais en France.
Oui, de plus en plus, parce que c'est vrai que la cuisine japonaise a beaucoup de succès, donc on la trouve Si on n'a pas d'épicerie asiatique à côté de chez soi, on peut aller dans les magasins bio, dans les supermarchés. Maintenant, il y a toujours un rayon de produits japonais. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas s'y mettre.
Et quels sont les ingrédients japonais de base? Vraiment la base. Alors, il y a la sauce soja. Le vinaigre de riz.
Oui, il y a...
Les algues.
Alors, l'algue noli, si on veut faire des makis, mais on vient de parler du kombu, qui peut être très important. Il y a le dashi, là, justement, qui...
On peut l'acheter tout près.
Qui peut s'acheter tout près.
Et il y a l'huile de sésame grillée. Là, c'est vraiment la base, avec le tofu.
Oui, alors l'huile de sésame grillée, après, c'est vrai qu'on peut, quand même s'en passer, mais ça rajoute une petite touche qui est vraiment intéressante pour les salades et les assaisonnements.
J'ai une fiche voir.
C'est votre question est pertinente parce que tous les jours, je reçois des questions sur Instagram des Français qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter des ingrédients. Et effectivement, on les trouve de plus en plus. J'ai trouvé du riz japonais dans les supermarchés, la sauce soja, même le vinaigre de riz.
L'une des bases, c'est le riz.
Oui, le riz, parce que le riz japonais n'est pas du tout le riz qu'on utilise en France. C'est ni le riz rond utilisé en France, ni le riz long utilisé en France. Donc, ça peut valoir la peine quand même d'acheter un bon riz japonais.
À cet effet, comment prépare-t-on un riz à la japonaise, Lorquier ? C'est quoi la base, si on veut faire un riz à la japonaise ? C'est un riz rond,
on disait soit japonais. Si on n'en trouve pas, on peut éventuellement utiliser un riz rond italien.
Arborio
Alors Arborio, ça va être un petit peu différent. Là, c'est vraiment le riz rond classique italien.
D'accord.
Et
comment on le prépare, riz à la japonaise ?
On va rincer le riz.
Ils ont tous des rice cookers, quand même.
Oui, alors les Japonais, ils connaissent pas la recette de la cuisson du riz à la japonaise, parce qu'ils mettent tout dans le rice cooker.
Ouais.
Mais ici, quand on n'a pas de rice cooker, on va rincer le riz. Et après, ce qui est important...
Qu'il soit bien clair.
Il faut que l'eau soit bien claire. Et sinon, ça va faire un riz trop collant, trop pâteux. Et l'important, ce qu'il faut retenir, c'est un volume de riz, un volume d'eau. Donc c'est très simple. On met tout ça à froid dans une casserole plutôt à fond épais. On va couvrir, on porte à ébullition 10 minutes à feu très doux. Et après, une fois qu'on a passé ces 10 minutes, c'est très important de laisser la casserole couverte hors du feu parce que la cuisson du riz n'est pas terminée à ce stade-là. Et on va encore attendre 10 minutes le temps que la cuisson se termine juste avec la vapeur d'eau chaude. Et c'est tout. Il n'y a pas de rajout de sel. On remue jamais la casserole et on aura un bon riz.
Et il faut faire attention à ne pas gâcher ne serait-ce qu'un seul grain de riz. C'est ce qu'on nous apprend. On nous apprend à respecter, pas seulement les agriculteurs et les commerçants, mais c'est très important au Japon, la nature qui nous offre ces ingrédients. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début d'un repas, on va toujours dire Itadakimasu, avec ce petit geste, on se rejoint les mains. Et ça veut dire, je me permets de recevoir humblement ce que la nature nous offre. Et finalement, c'est un geste pour dire merci à la nature qui nous offre, que ce soit végétal ou animal, tout ce qu'on mange tous les jours.
Alors avant de s'intéresser au régime Okinawa, juste après le disque, est-ce que vous pourriez nous aider à bien préparer les nouilles japonaises? Il y en a une infinité de variétés, il y a les soba, il y a les ramen. Comment on les prépare pour une préparation chaude? On peut parfois ne pas oser les préparer parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Est-ce que vous avez un conseil?
Alors les nouilles chaudes, par exemple, si on fait des nouilles soba, il faut vraiment les faire cuire dans un grand volume d'eau. Ça c'est très important. Et à la fin de la cuisson, soit on les met directement dans un bouillon qu'on a préparé au préalable pour les manger chaudes. Donc le bouillon, ça va être souvent le bouillon dashi dont on a déjà parlé, qui est vraiment la base de tout, dans lequel on va rajouter un petit peu de sauce soja, éventuellement du mirin et du saké. Pour assaisonner. Donc on va mettre ces nouilles dans ce bouillon et si on les mange froides, on va les rincer à l'eau froide. Donc ça, c'est les Italiens, ça les fait hurler. Mais c'est vraiment important parce que sinon, elles vont complètement coller entre elles. Et c'est très important d'arrêter la cuisson à ce stade-là et justement de pouvoir les utiliser, qu'elles se séparent entre elles et que ça ne fasse pas une grosse boule. Inutilisable.
Allez, restez avec nous dans quelques instants. On s'intéresse à la cuisine santé japonaise et en particulier au régime Okinawa. Ce sera juste après Jean-Louis Murat qui interprète À l'amour. À l'amour.
Grand bien vous fasse. Ali Rébi sur France Inter.
10h52 et on s'intéresse aux bienfaits de la cuisine japonaise. Alors, docteur Catherine Lacrenière, la cuisine japonaise est donc considérée comme l'une des plus saines au monde. Racontez-nous ce régime Okinawa. Okinawa, c'est un archipel au sud du Japon et c'est l'un des endroits au monde où l'on retrouve le plus de centenaires. Ce sont les fameuses zones bleues à travers le monde.
Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a beaucoup de centenaires au Japon. Il y en a 50 000, mais il y en a encore plus. Il y a une densité très importante sur l'île d'Okinawa. Il y a plus qu'une alimentation, un régime Okinawa, il y a une philosophie Okinawa, une manière de manger et une manière de vivre, parce que j'ai cru comprendre qu'on se lève avec le bonheur d'être tous les jours, de profiter de la nature, qu'on marche beaucoup à Okinawa, et on mange. Alors, si vous voulez vivre centenaire à l'île, il ne faut pas trop manger. Ah. Il ne faut pas aller jusqu'au ventre trop plein. Il faut s'arrêter.
Il y a un mot pour ça, d'ailleurs. Voilà, c'est ça.
C'est
on mange juste avant la satiété.
Voilà, donc merci. 80%, voilà, c'est ça, 80%. Merci de l'avoir dit pour moi. Donc les apports caloriques finalement sont moins importants. Et puis il y a la manière dont cette cuisine est faite. Il y a le petit déjeuner salé dont on a parlé tout à l'heure, qui permet de moins lancer l'insuline. Donc c'est vrai que on sait qu'en avançant en âge, on a une insulinorésistance qui va conduire au diabète. Et ben là, on a moins mis l'insuline à contribution. Et il y a beaucoup de fruits et de légumes, au moins 7 portions par jour, on est presque au PNNS. Il y a des céréales complètes, du sarrasin par exemple, ou des légumineuses, et les fameuses algues. Alors j'ai entendu dire, vous me direz si je me trompe, qu'il y a une algue spécifique à Okinawa, qu'on ne peut pas voir ici parce qu'elle vit au maximum une semaine. On l'appelle Umibudo. Oui, voilà. Et de toute façon, les algues en règle générale sont des produits extraordinaires. D'abord, il y a de l'iode, mais il y a des antioxydants qui luttent donc contre le vieillissement cellulaire, des protéines végétales, et puis...
Quel type de protéines végétales ?
Alors, en fait, vous savez que les protéines végétales, le problème, c'est que on n'a pas forcément tous les acides aminés, sauf dans le soja. Mmh. Mais ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de soja dans la cuisine d'Okinawa, la cuisine japonaise en règle générale. Donc, on a tous les acides aminés qui nous permettent de construire les protéines. Et les Okinawais, je pense, vont quand même manger du poisson et de la volaille, pas forcément tous les jours, mais ils ont un apport suffisant en protéines.
Donc, si je résume, c'est un régime faible en calories, faible en sucre, faible en graisses saturées, les graisses saturées que l'on retrouve dans le beurre notamment, ou l'huile de palme, un régime riche en céréales, en légumineuses, en légumes et algues, et puis avec peu de viande.
Alors oui, il y a très peu de viande, il y a un peu de volaille, et puis il n'y a pas du tout d'aliments ultra transformés.
Ah bah oui.
Voilà. D'où, alors, c'est sûr que si McDonald's arrive sur l'île d'Okinawa, les choses vont peut-être changer, mais...
Patricia Loison.
C'est aussi un mode de vie. Moi, j'étais pas à Okinawa, j'étais à Kobe quand vous parliez de la marche. Je faisais du sport là-bas. Vous vous faites doubler à lit par des septuas, des nonas, des sexagénaires qui marchent à une vitesse qui sont comme ça.
Et comme
qui
ça, ça veut dire
tout sec. Fit quoi. Pardon, oui, on est
tout sec.
Oui,
on est sur France Inter.
Oui, on est sur France Inter. Et qui voilà, qui marchent, qui ont une activité physique, qui ont une forme et qui commencent leur journée. Puisque moi, je travaillais pas, je croisais ces personnes âgées qui se lèvent et qui sortent, et à 70 ans, qui font 5 km et qui vous doublent.
Jun Fujiwara.
Et ce n'est pas qu'à Okinawa, hein, dans tous les villages reculés du Japon. Si vous avez 60 ans, vous êtes parti des petits jeunes du village. Hein. Et ils restent travailler dans les champs jusqu'à 80 ans, 90 ans. Et c'est ça aussi le secret de la longévité.
Lorquier, comment adapter ce régime Okinawa à la sauce française quand on ne trouve pas certains produits comme certaines algues, etc. Est-ce qu'il y a une manière de l'adapter?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on peut, enfin, alors aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, hein, on peut quand même trouver la plupart des ingrédients dont on parlait, comme le tofu, le miso, ou beaucoup d'ingrédients japonais, mais effectivement, on peut très bien avoir un état d'esprit un peu d'Okinawa dans son assiette en France, en ayant des choses assez composées, comme on disait tout à l'heure, avec des salades, la céréale qui va être centrale, et finalement les aliments autour, voilà, qui vont être en petite quantité et en petites touches.
Bon, on termine avec un peu de douceur. C'est pour vous, Patricia Loison, vous êtes une fan absolue de la pâtisserie traditionnelle japonaise. Par exemple, les fameux mochi, hein, c'est
oh
ça
là là,
racontez mochi. Ce que sont les mochi, tiens. Est-ce que je prononce bien d'ailleurs?
Oui, mochi. Bon. Mochi. C'est de la pâte de riz.
Je vois vos yeux briller,
ah,
Patricia.
Oui, parce qu'on, tout à l'heure, on parlait du riz, mais ils font aussi une pâte de riz incroyable. Moi, j'ai vu des sumo taper la pâte de riz pour la lisser et faire des mochi tout frais.
Alors, donc, c'est du riz gluant.
Voilà, c'est du riz gluant, et c'est une pâte de riz qui peut être fourrée ou haricots rouges si on en a, plein d'autres choses. Clin d'œil à la maison du mochi à Paris, qui c'est absolument délicieux. Mais alors, moi, j'ai découvert, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, le mochi salé frit. C'est une petite boule de riz avec entourée d'une algue. Alors ça, mais je laisse tous les mochis sucrés pour un mochi salé.
Et je conseille les délices de Tokyo qui raconte admirablement comment dire, cette fabrication de certaines pâtisseries traditionnelles japonaises de durian Sukegawa. C'est absolument délicieux. C'est en poche.
Du dolayaki, là.
Exactement.
Voilà,
exactement.
C'est la pâte de haricots rouges qui est entre deux pancakes.
Qu'on peut trouver, si vous voulez en manger, tout frais, rue Sainte-Anne.
À Paris, mais tout le monde est là.
Non, mais pour ceux qui sont à Paris, ça peut être l'occasion.
Merci à toutes d'être venues, vous m'avez donné faim. Lorquier, on peut lire avec profit le grand livre de la cuisine japonaise. Patricia Loison, votre récit au Japon, Ceinture de soie, c'est publié chez Fayard. Merci. Les secrets du savoir-vivre nippon, c'est de Jun Fujiwara aux éditions de L'Opportun. Merci docteur Catherine Lacronière. Et le nouveau L, toujours en kiosque, Daniel Jerkens. Elle à table. Et la table, évidemment. On se retrouve demain dans Grand Mal vous fasse loisir.